With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Salut, c'est We Love MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de We Love Cinéma. À We Love MDR, on aime analyser et discuter des comédies françaises, et aujourd'hui, on va revenir sur une carrière, ou plutôt sur deux carrières, celle d'un duo composé d'Éric Toledano et Olivier Nakache. Et pour ce faire, j'ai mes deux spécialistes en néo-comédie, Perrine Kenson, hello, comment
hello.
Tu vas?
Hello à tous les deux, ça va.
Et Yerim Sarr.
Salut, ça va.
Pour parler de ces deux réalisateurs qui, en général, répondent aux interviews ensemble, ils font tout ensemble, c'est plus que des bros. Je pense qu'il faut quand même parler de leur plus gros succès. Je pense qu'il faut parler d'Intouchables. Intouchables nous a tous dépassés. Est-ce que ça vous a surpris, le phénomène Intouchables, Perrine, par exemple?
Non, pas du tout. En fait, je me souviens, quand j'avais vu le film, je me suis dit... Oui, non, ça m'étonne pas que ce truc va cartonner, en fait. Et parce que je trouve qu'il a à peu près toute la bonne dose de tout ce qui fait un bon film populaire, c'est-à-dire qu'il a des personnages attachants, un sujet, on pourrait dire, plein de bons sentiments, mais en même temps, oui, c'est un peu le cas, mais c'est pas gênant non plus, et des vraies situations... comique sur un sujet que les gens n'ont pas forcément envie de rire habituellement. Donc je trouve que c'était vraiment il y avait le bon dosage vraiment de tout, et c'est même un film qui se revoit plus qu'il ne se voit la première fois. Je sais pas si ça se dit comme phrase, mais moi je me suis comprise. C'est un film qui se revoit très agréablement et qui est, je dirais, c'est comme un pot-au-feu, c'est meilleur le lendemain, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu ça, Intouchables. Je pense que c'était vraiment la bonne recette totale pour un vrai bon film populaire, et ça n'a pas raté.
Et toi, Yerim, est-ce que toi ça t'a marqué, et comment t'expliquerais ce succès? Est-ce que c'est aussi il y a évidemment le nez des deux réalisateurs, mais il y a aussi leur double de cinéma, à savoir Omar Sy, qui a quand même joué un énorme rôle là-dedans, et qui d'ailleurs il a pas fait qu'un film avec eux, quoi.
Ce qui était sûr, c'est que c'était une grosse machine dès le départ. Ça fait très feel good movie, mais à la française, quoi, avec les obsessions françaises un petit peu dedans. C'est-à-dire que t'as l'ex-tolard jeune de banlieue, bon, il a déjà plus de la trentaine, mais tu vois, t'as ce truc là, t'as ce truc de on va tous apprendre de nos différences et puis à la fin ça va être bien, enfin tu vois, t'as ce genre de truc qui marche toujours bien ici. Après t'as quand même l'humanité qui transparaît dans le film, notamment grâce au jeu des deux acteurs principaux. Et après, je t'avoue que j'ai surtout rigolé en voyant c'est pour ça que j'insiste sur le côté à la française, en voyant le regard de je sais plus quel journaliste Quinry, qui avait dit, mais en fait, c'est super raciste. En gros, t'as juste un Renoir qui arrive et qui vient divertir un blanc riche en dansant. Et je me dis, ah ouais, c'est vrai que comme ça, c'est pas con non plus. Mais c'est feel good movie à la française, quoi. J'ai trouvé sans prétention, en fait, contrairement à d'autres trucs qu'ils ont fait par la suite. Celui-là, il faisait plus, tu vois, plus spontané, plus gentil au sens premier du terme, quoi, tu vois. Juste une bonne intention.
Avant de parler de la suite, est-ce que vous êtes sensible à ce qu'ils faisaient avant, à savoir Nos jours heureux, Tellement proches, et même Je préfère qu'on reste amis. Est-ce que ça vous a marqué un petit peu? Est-ce que vous sentiez que ça allait devenir qu'ils allaient avoir une patte d'auteur dans la comédie française?
Je préfère qu'on reste amis, je peux pas dire ça. Je pensais pas. Enfin, pour moi, c'est un film assez sympathique. D'ailleurs, j'ai une histoire un peu personnelle, ça m'a permis de larguer quelqu'un. Donc, je préfère qu'on reste amis. Il y a des années de ça, il a mal compris. Il pensait que je disais que je préférais qu'on reste amis, lui et moi. Et j'ai dit non, je suis allée voir le film qui s'appelle Je préfère qu'on reste amis. Et après, je lui ai dit qu'en fait, que si, peut-être, c'était peut-être mieux comme ça. Donc, voilà, c'est l'anecdote sur, autour du film. Mais au-delà de ça, non, c'est vraiment, moi, c'est Nos Jours Heureux qui a été la révélation Toledano Nakash. C'est un film, pour moi, en fait, de mon point de vue, presque, c'est leur meilleur film. Nos Jours Heureux. C'est un film qui, pareil, je trouve qu'il y a un équilibre très, très fort, qui est très... Qui est assez génial dans sa composition de personnages. C'est un film un peu choral, etc. Mais une composition très 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 dense de personnages avec des vrais caractères, des répliques qui font mouche que je continue de citer à l'heure actuelle. Il y a un vrai sens du rythme, il y a un vrai sens de... Tout à l'heure, Yérim, tu parlais d'humanité, mais moi, je le sens à fond dans Nos Jours Heureux. Et il y a ce côté un petit peu blague entre amis, mais pas private joke, celle à laquelle on invite tout le monde, que j'aime énormément dans ce film de colonie de vacances qui, pour moi, était la révélation Toledano Nakash.
Toi, Yérim, le Early Toledano Nakash, comment tu le ressens, que ce soit Nos Jours Heureux ou les autres?
Pareil, voire encore mieux, parce que j'étais, mais vraiment par hasard, tombé sur la première version de Nos Jours Heureux. En fait, un court-métrage.
Ah oui, aussi, le court-métrage, ouais.
Voilà, Ces Jours Heureux, où il y avait, cette fois, il y avait Omar Efren. Il y avait déjà...
Il y avait Laurent Deutsch.
Jean-Paul Rouve.
Exactement, c'était ça. Ça devait faire un quart d'heure, je pense, dans mon souvenir.
Ouais, c'est ça. 20 minutes, un quart d'heure.
Et c'était très sympathique à voir, tu vois. Pareil, c'était sans aucune prétention. Il y avait vraiment juste le côté... Il y avait déjà un truc qu'ils vont garder un petit peu par la suite, c'est le côté film de groupe. C'est-à-dire que t'as des portraits avec des portraits de personnages qui se croisent, qui sont tous un peu drôles à leur façon, un peu touchants à leur façon. Et après, effectivement, ça s'est concrétisé sur le long métrage, même si le casting était légèrement modifié. Et c'était, en fait, pour moi, je ne sais pas si c'est une question de génération, mais Nos Jours Heureux, c'est un truc que pas mal de gens ont vu en décalé, c'est-à-dire pas forcément au moment de la sortie cinéma, mais au fil des diffusions ou sur Internet, et ça a acquis une sorte de petit truc un peu culte autour de certains personnages. Donc ouais, c'était plutôt pas un mauvais souvenir.
Bah, notamment le personnage de Joséphine Demeau, je pense, qui est
ouais.
Devenu une force d'insulter ouais. La terre entière, ça te fait du bien, quoi. Enfin, ouais,
c'est ça. C'est du bien. C'est ça. Donc ouais, après, par contre, est-ce que je vais retrouver un truc d'auteur à ce moment-là, je sais pas. En fait, je voyais d'abord le côté troupe, un peu. À la limite, si, il y a un truc qui se retrouve même jusqu'à présent. C'est le côté presque un peu théâtre, en fait, de ce qu'ils font. C'est-à-dire que là, t'as un peu le côté troupe, sauf que, bon, après, c'est pas un lieu fermé. Et jusqu'à En Thérapie, dont on va parler plus tard, t'as quand même ce truc de ça pourrait très bien être des pièces à chaque fois.
Alors, je vais vous avouer un truc. Sur leur premier film, je préfère qu'on reste amis. Moi, pas d'anecdote personnelle là-dessus.
Mais, vous allez me raconter ma vie.
Mais par contre, Nos Jours Heureux est tellement proche, c'est pas des films que j'avais vraiment apprécié à l'époque. En fait, je me disais, ces mecs-là, tu sens qu'ils sont en train de se fondre dans le moule des comédies françaises classiques, quoi. C'est-à-dire qui ont, voilà, je sentais qu'il y avait pas, tellement proche. C'est un film qui m'aurait pile, quoi. Parce que, en plus, l'accroche de tellement proche, c'est, ils sont tellement comme vous. Enfin, c'était ça, l'accroche sur l'affiche.
Je suis d'accord avec toi sur tellement proche, mais pas sur Nos Jours Heureux. Hein.
Ouais, ouais, mais en même temps, c'est tellement votre enfance. Il y a un petit côté, petit Nicolas, mais 40 ans plus tard, si tu veux. Tu vois, un petit côté, c'est ta jeunesse. Enfin, moi, j'ai déjà été en colo, c'est pour ça que c'est peut-être que comme ça que je l'ai vécu. Mais tellement proche, il y avait un truc vraiment genre de, l'archétype des comédies chorales qui se réunissent autour d'un repas le soir, comme on en a déjà vu, et je sentais que je n'ai pas imaginé une seule seconde que Intouchable, ça allait être ce carton-là, et il faut leur reconnaître au moins ça, c'est qu'ils ont, en plus, si c'était eux les scénaristes, ils ont touché un truc, quoi. Ils ont touché un public, ils ont touché une espèce d'air, l'air du temps, quoi. Et par contre, puisqu'on parlait de ce tournant auteur, c'est juste après. Je veux juste ajouter un truc, c'est que Intouchable, j'ai un tout petit souci avec, mais je le dis souvent avec les comédies françaises où il y a un rapport avec la richesse. Alors c'est basé sur une histoire vraie, mais ils sont tellement immensément riches que je déconnecte, en fait. Ça reste quand même une comédie où ils vont, tu veux un vol d'hélicoptère, tu veux une Maserati, il n'y a pas de problème, elles sont là, quoi. Oui, voilà, exactement. Tu me fais exactement penser à ça, avec ton hôtel particulier dans le centre de Paris. Donc ouais, je sentais pas que ça allait devenir des auteurs, en fait, parce que c'était quand même des grosses ficelles et qui auraient pu être sans vouloir les comparer à d'autres, mais tu vois, ça aurait pu être ils auraient pu être le haut de KDO, tu vois, à leur début de carrière. Et puis en fait, je pense qu'il y a eu un vrai tournant après Intouchable. Où ils se sont dit, ah merde, en fait, on peut faire du cinéma autrement. Et je sais pas si vous l'avez ressenti comme ça, mais quand ils ont enchaîné sur Samba, qui est vraiment une comédie compliquée pour le coup, j'ai senti qu'ils se sont vraiment remis en question artistiquement et surtout en se disant, ah, attends, comment on pourrait faire du cinéma différemment? Je sais pas si ça a pris sur vous, mais Samba m'a de sa manière un peu touché. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Perrine?
Moi, c'est vrai que j'ai un peu... En fait, ce que j'ai trouvé intéressant, ce tournant vers Samba et puis même plus tard Hors Normes, mais ce que je leur reproche presque d'une certaine façon, c'est... Moi, ce qui m'avait touché, par exemple, dans Intouchables, c'était le traitement du handicap, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, de parler du handicap avec un certain humour, une certaine distance et à la fois proximité, de pas regarder ces personnages avec beaucoup d'apitoiement, mais au contraire de les intégrer dans une narration assez forte, moi ça m'avait beaucoup beaucoup plu, et j'aimais bien ce type de comédie à la fois, on parlait d'humaine tout à l'heure, mais c'est ça, très humaine, mais qui prend à bras le corps des sujets qui d'habitude ne font pas rire, donc c'est ça qui d'habitude sont traités sous l'angle du drame ou de la tragédie. Et c'était le cas avec Samba aussi, c'est-à-dire d'un seul coup d'aller parler des réfugiés et des personnes sans papier et de le traiter là aussi sous le ton d'une comédie plus complexe, évidemment. Et c'est même parfois ce que je trouve que Samba, c'est encore, ils n'ont pas la bonne, tout à fait le bon dosage. Ils prennent parfois un petit peu trop de pincettes ou parfois pas assez. Il y a un truc d'expérimentation dans Samba qui, pour moi, ne fonctionne pas totalement. Et après, ça va donner pour moi Hors Normes, qui est ce tournant aussi très humaniste. Et en fait, au bout d'un moment, j'essaie de savoir ce qu'ils veulent faire. En fait, au bout d'un moment, je me demande si soit ils font de la comédie sous prétexte de faire de l'humanisme, ou est-ce qu'ils font de l'humanisme sous prétexte de faire de la comédie. Enfin, j'arrive pas trop à savoir comment ils fonctionnent, et est-ce que ça devient un espèce de réflexe, ou est-ce que c'est très naturel et spontané. Et c'est là où je sais plus si en fait ils ont trouvé une recette qu'ils essayent d'exploiter, ou si en fait c'est tout à fait quelque chose qui leur tient à cœur, en fait. Mais là, je trouve qu'il commence à y avoir une sorte de mécanisme, et je m'inquiète un peu des gens qui ont trouvé leur mécanisme, en fait. Donc c'est un petit peu ce que ça m'évoque, cette suite de leur carrière.
Et toi, comment tu l'as vécu, ce tournant, Irim?
En fait, ça m'a fait pareil que pour Adam McKay, sauf que Adam McKay, pour moi, il a 100 fois plus de talent que les personnes dont on parle. Mais c'est-à-dire que c'est des mecs qui commencent par de la comédie, voire de la très grosse comédie, mais tu sens que derrière, tu as vraiment le désir d'aborder des sujets sérieux et d'être pris au sérieux. Et ça, ils commencent à l'avoir avec Intouchables, et du coup après, ouais, ils se transforment un petit peu en autre chose, où ils se disent, à chaque fois, il va falloir qu'il y ait
un sujet dur,
un sujet très dur et très, en général, sociétal, derrière la simple trame comique ou les mésaventures que les personnages vont vivre. Et je pense qu'en fait, ça, pour le coup, c'est un truc très, très commun chez les gens qui sont d'abord reconnus en tant que faiseurs de comédie. C'est en fait, pourquoi j'ai dit McKay, c'est qu'à un moment, Adam McKay fait un film qui s'appelle The Other Guys, ou Very Bad Cops, en français. Et tout le générique, c'est une dénonciation, en fait, de la bourse, en fait, et des manipulations boursières, des fonds de pension, etc. Et en fait, c'est très éloigné du sujet du film. C'est juste qu'à un moment, le méchant, c'est un escroc en bourse. Mais c'était pas ça du tout. Enfin, tu vois, c'est pas un film engagé contre ça. Par contre, après, il se met à faire The Big Short, etc. Et là, c'est plus du tout de la comédie, c'est juste qu'il prend le sujet comme ça. Et eux, ils ont un peu ce truc-là, qui est un peu parasité, parce que c'est à part En Thérapie, qui est leur dernière création, on va dire. Tu sens qu'en film, ils osent pas non plus aller à fond dans le côté sérieux de A jusqu'à Z. C'est-à-dire que même Hors Normes, t'as encore des restes
de trames comiques qui en fait ont plus rien à foutre là. C'est-à-dire que les espèces de dates ratées de Vincent Cassel, tu t'en fous un peu en fait dans le film. C'est, tu sens qu'eux ils le font par presque par réflexe en fait. Donc voilà, moi c'est plus ça, c'est que c'est un équilibre qui est dur à trouver. Et alors après, l'autre énorme problème que j'ai, c'est que pour le coup après tu sens d'énormes prétentions derrière. Et des fois ils ont pas forcément ce qu'il faut pour bah pour être à la c'est hauteur de leurs propres exigences en fait. Je sais pas s'ils ont les moyens de leur ambition en fait sur ce genre
de sujet.
En tout
cas, c'est clair que ils ont énormément d'ambition et en tout cas c'est quelqu'un qui ont reposé leur à mon avis, c'est quelqu'un qui ont ils ont reposé leur cinéma à plat et ils se sont dit ouais, comment on va faire un peu différemment, comment on va faire plus ambitieux hein. C'est vrai je pense qu'il y a ça. Et je pense que leur point d'orgue, c'est enfin celui de essayer de faire un peu toucher à vraiment la grosse comédie et en même temps aussi le défi d'auteur. Je pense que c'est le sens de la fête. Et là, je me tourne vers Perrine parce que je sais que c'est ton film préféré. Est-ce que moi, je t'avoue, moi j'adore Le Sens de la Fête, mais je sais que Perrine, toi, je sens que c'est le point de rupture. Est-ce que tu peux, parce que je suis sûr que tu l'avais dit en antenne, mais maintenant il faut le dire. Qu'est-ce qui t'aurait pile dans Le Sens de la Fête? Parce que je sais que tu l'as, Le Sens de la Fête, en vrai, en tant qu'être humain.
Mais en fait, je pense que même je l'avais presque trop dans le film. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'anticipais toutes les blagues 5 minutes avant, ce qui était très, très, très agaçant en regardant le film. Parce que j'étais genre, alors là, d'un seul coup, les flûtes, elles vont servir à ça. Ça, ça va servir à ça. Et, ça, et en fait, cette espèce de programmatique de l'humour et de la comédie, ça m'a... En fait, j'ai trouvé que c'était un film qui était... sans effort, mais zéro, mais sans effort du tout. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on déroule un programme déjà vu et revu, avec cette espèce de discours un peu politique derrière sur les petites entreprises ou je sais pas trop quoi, la Macronie. Mais moi, ça m'a vraiment. Enfin, j'en ai pas, mais ça m'a cassé les burnes, quoi. Enfin, au bout d'un moment, heureusement qu'il y a certains acteurs, et je tiens à le dire, j'étais la grande surprise de comment il s'appelle, de Lelouch là. Qui vraiment m'a épatée.
C'est comme ça qu'on l'appelle dans ce podcast, Lelouch.
Lelouch. Non, mais voilà, et lui, il m'a vraiment, Gilles Lelouch, m'a épatée en chanteur de groupe mariage. De mariage, là. Et deux, trois, évidemment, qui sont vraiment très, très bons. Mais le problème, c'est que derrière, tout est tellement stéréotypé, calculé, tout prévu au millimètre, il n'y a zéro surprise dans cette histoire. Et ça devient même trop gros. En fait, pour moi, j'ai l'impression qu'ils essayaient de refaire là où peut-être Samba ou Hornom s'approchent d'un succès à la, enfin en tout cas tentent la recette d'un intouchable. Le Sens de la Fête essayait de retrouver la spontanéité d'un Nos Jours Heureux. Sauf que je pense que Nos Jours Heureux étaient sincèrement spontanés, et là il y a quelque chose où tout est tellement, tellement millimétré et exagéré, poussé dans des trucs qui seraient proche de la comédie anglaise d'ailleurs, mais que ça ne fonctionne pas. Pour moi, c'est d'une violence, ça m'a vraiment cassé les pieds, quoi.
Ouais. Je savais que tu allais me faire ça, et je t'ai lancé exprès, je savais qu'on allait
ça
avoir
m'énerve.
Ton petit passage,
voilà. Petit
ton
hommage,
petit passage Bacri, là, ça m'énerve. Voilà. Yari, est-ce que tu es aussi violent avec ce film?
Avec Le Sens de la Fête, non, mais alors... déjà, moi, le truc, c'est que je préfère quand ils ont moins de prétentions, et pour moi dans celui-là il y avait moins le côté regardez, on va mettre le doigt sur un sujet de société majeur. Alors après c'est vrai que
les gars qui font de la musique à la fin là.
Pff, ouais, mais
c'est
tu vois
c'est insupportable, non, c'est insup.
Mais non, mais ce que je... non, ce que je veux dire c'est que c'est pas ça du tout le centre du film. Le centre du film c'est des espèces de... En fait, c'est un empilement de petites scénettes. C'est pour ça que celui-là, il fait encore plus théâtre avec l'unité de lieu. Après, en vrai, moi, je... Alors, c'est très subjectif parce que c'est uniquement à cause d'un seul acteur, mais ça m'a vraiment fait comme du sous Bakri Jaoui, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment un truc... Eux l'auraient écrit différemment et mieux, mais en gardant potentiellement exactement les mêmes personnages. Mais c'est juste que t'as des dénouements. Enfin, genre quand justement le chanteur de merde il tombe amoureux, enfin on va dire que il se tombe dans les bras avec la gérante Renoir machin un peu Kaira, tu fais oui ok, ils se détestaient en début de film, enfin tu vois c'est un truc vu et revu, mais c'est justifié par rien à part un câlin forcé à un moment, genre on fait la paix parce que t'as Bakri qui leur demande, le personnage de Bakri qui leur demande, et t'as plein en fait de dénouements comme ça. Et c'est vrai que par contre le discours du perso de Bakri en mode ouais mais les petits patrons, on est obligé de prendre des sans-papiers parce qu'on n'a pas assez d'alloc. Enfin, on n'a pas assez d'aide, là tu fais ouais, qu'est-ce que ça fout là, enfin, c'est vrai, c'était très bizarre.
Ça m'a réconcilié avec un comédien qui est Benjamin Laverne. J'étais pas super fan, hein, moi je vous avoue, tout d'un coup de le voir en mec ultra prétentieux et de le jouer vraiment.
Le discours de Benjamin Laverne dans l'affaire, chef d'œuvre.
Le discours de Benjamin Laverne.
Et la Corée dans les airs. La Corée dans les airs.
La Corée, elle est à pisser de rire.
C'est ça, tu vois.
Et que tout le monde est BA sur la beauté du truc.
Oui, je lui reconnais des bons passages, hein, c'est tout. C'est que l'ensemble ne fonctionne pas. C'est pour toutes les raisons qu'on a citées avant, et je peux en citer d'autres. Hein. Non, vraiment,
j'adore ce film, mais j'adore t'entendre en parler. je sens un truc, je sens, tu sais,
J'étais fâchée dans la salle, parce qu'en vrai, j'avais envie d'aimer.
Sens 2017, je te sens une déçue de 2017, je sens cette France qui boue, là, en toi. Est-ce que hors norme, ça vous a marqué ou pas?
Moi, je l'ai vu dans un avion. Voilà. Non, mais après.
Moi, je l'ai vu en clôture du Festival de Cannes, donc voilà.
Oui, c'est pareil.
Et...
Ouais. Vous saviez, ça existait avant ce truc quand il n'y avait pas le coronavirus.
Et alors, est-ce que tu regardes un regardes un souvenir plus Sens de la Fête ou plutôt genre Samba?
Pour hors norme, je suis très partagée. Je trouve qu'encore une fois, ce côté, le côté sociétal, le côté problématique sociétale. Alors, le sujet est encore une fois très intéressant. Je trouve que l'idée de s'inspirer d'une vraie, des vraies associations, ces deux associations, elles sont assez passionnantes, quoi. Mais ce que disait un peu Yerim tout à l'heure, c'est qu'il y a de la comédie un peu forcée. Ce que je retiens vraiment, moi, de hors norme, qui m'a plus touché que le reste, c'était ce qu'il a fait ressortir des acteurs et surtout de Vincent Cassel, en fait. C'est-à-dire que j'en pouvais plus de voir un Vincent Cassel énervé qui passe son temps à gueuler. Et lui en a fait un personnage particulièrement calme et touchant et assez émouvant. Ça faisait très longtemps que j'avais pas vu Vincent Cassel, voire peut-être jamais comme ça. Et je l'ai trouvé, et ça m'a vraiment beaucoup plu. Ça m'a vraiment enthousiasmé, mais je trouve que le reste, malheureusement, il y a cette même recherche d'équilibre. Encore une fois, ils ont eu la bonne formule une fois, et c'est très difficile de la reproduire, en fait.
Et toi, Yerim, est-ce que les écouteurs étaient bons dans l'avion?
Ouais. Après, pour le film, le truc, c'est que c'est vraiment, ouais. Enfin, j'ai vraiment pris comme un samba 2.0, sauf qu'ils ont remplacé les sans-papiers par des handicapés en très très gros. Donc après, le truc, c'est que moi, samba, ça m'avait posé un problème parce que j'avais vraiment l'impression qu'ils abordaient un sujet qu'ils maîtrisaient pas totalement. Et là, alors là, le truc, c'est que moi, je connais pas du tout, tu vois, tout ce qui est protocole, structure d'accueil de handicapés en France. Mais apparemment, c'était aussi un problème pour ce film. T'as plein d'assos qui ont dit, mais c'est pas du tout ça, quoi. C'est qu'ils se sont sentis un peu insultés et tout. Maintenant, si on le juge uniquement en tant que film, ouais, il y a des moments super émouvants, il y a des trucs. Par contre, je trouve qu'ils ont de plus en plus un problème avec leur dénouement. C'est-à-dire que, en fait, c'est un film qui a, alors il y a une fin qui est un peu forcée, mais sinon, il y en a pas, en fait. Et tu sens que, et c'est normal, hein, parce que c'est pas comme s'ils pouvaient résoudre tous leurs problèmes. En 1h50 de film, je crois. Donc, en gros, mais il y avait moyen de l'écrire de façon à te faire comprendre que justement c'est un problème sans fin et tout. Là, c'est plus que à un moment, le script te dit oui, en fait, il va falloir qu'on finisse ce film. Donc ouais, ça fait un peu plus forcé.
Je suis d'accord avec le fait que de toute manière, ils commencent à choisir des sujets de plus en plus compliqués et de mettre en scène l'autisme et puis tu fais bien d'en parler, Yerim, parce que c'est vrai qu'il y a des associations qui ont dit non, c'est pas exactement comme ça et sans doute les associations ont raison. Et puis il y a aussi un autre truc, c'est que j'ai aussi du mal à voir les autistes comme réflexe comique, en fait. Et il y a beaucoup de ça, en fait. Il y a beaucoup d'autistes qui sont utilisés dans le but de faire rire la salle de cinéma. J'ai beaucoup de mal avec ça, en fait, d'utiliser les.
Après, ça dépend comment c'est fait. Si c'est fait à leurs dépens, non. Si c'est fait avec eux, oui.
Et alors, il y a un autre truc, c'est que je veux bien que ça soit inspiré d'une histoire vraie, mais d'avoir un autiste qui fugue et qu'on retrouve sur
la route,
sur le périph'.
Ouais.
sur le périple, je n'y crois pas. Un moment, j'ai eu mon suspicion of disbelief. Et il y a juste un détail, c'est qu'à un moment, je me suis dit quand même, ils ont un sens du ciné, un sens de, ils commencent, vraiment, ils ont un truc, une ambition de cinéma. Ils veulent faire des vrais films de cinéma, ça se voit au moins visuellement. Et je me disais, et putain, la musique, vraiment, c'est super efficace. Jusqu'à ce que la pub Leroy Merlin vient tout me gâcher, puisque Leroy Merlin, au même moment, fait une pub en utilisant la même putain de musique.
Ah merde.
Et du coup, à chaque fois que je vois la pub Leroy Merlin, je me fais, ah, c'est hors norme. Et du coup, le film m'est gâché. Je suis en train de penser à ma boîte à outils qu'il faut remplacer, quoi. Tu vois, ce genre de choses. Et c'est ce genre de détails, tu vois, qui peuvent te gâcher un film. Et là.
Attends, je voulais juste revenir sur un truc.
Vas-y.
Parce que vous parliez tous les deux des associations qui avaient dit quelque chose contre le film. Et en soi, d'habitude, ça m'énerve un petit peu quand les gens, tu vois, donc, un film, c'est une fiction, donc après, que ça veuille pas ou oui ou non être vraiment collé à la réalité, je pense que c'est aussi le droit du film de pas le faire. Le problème, c'est que, justement, Toledo et Nakache se revendiquent tellement du réalisme de ce qu'ils font, tellement de la sincérité, de la proximité de leur film avec le sujet, que justement, d'habitude, là où c'est, moi, ce genre de remarques, ou par exemple des remarques scientifiques, genre, non, c'est pas comme ça le soleil, enfin bon, voilà, ça m'agace un tout petit peu, là, je me dis, pour le coup, les associations ont raison de le faire, parce qu'eux-mêmes se revendiquent d'un espèce de montrer une réalité, je sais pas quoi, difficile pour ces milieux-là, mais si eux-mêmes ne respectent pas cette réalité-là qu'ils tentent de dénoncer, je pense que c'est assez problématique, en fait. Donc, c'était mon intervention sur les associations, on a le droit de le dire, quoi.
Alors moi, j'ai juste un truc à rajouter, c'est que c'est quand même totalement de leur faute si Omar, il est passé dans la case « Ah, c'est le noir gentil rigolo ». C'est vraiment eux qui ont achevé de l'installer dans ce rôle-là, quoi. Après, lui, ça lui convient très bien, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est pas le meilleur truc non plus, tu vois. Ça aurait été cool, un peu de variation.
À mon avis, le dernier tournant de leur carrière, un peu avec une ambition, grosse ambition et gros moyens, c'est en thérapie, alors que finalement, en thérapie, c'est juste deux personnes qui parlent sur un fauteuil. Et c'est quand même, structurellement, c'est assez limité. Est-ce que vous avez regardé en thérapie? Et je dois vous avouer un truc, c'est que j'avais déjà vu un tout petit peu de la version israélienne, j'avais vu la version américaine. Et honnêtement, je sens plus leurs pattes, en fait. Je sens que ils ont été, moi j'ai plutôt apprécié la série, je sens qu'ils ont été un peu les noms qu'on a mis là pour vendre le projet, quoi.
En termes de réal, vu que c'est du chant contre chant et qu'en intérieur, c'est des scènes de psychothérapie. Donc c'est sûr qu'ils n'ont pas été appelés pour ça. Après, tu sens que pareil, le fait d'avoir le poids des attentats du Bataclan et tout, c'est ça maintenant la thématique sociétale, tu vois, qui conditionne pas mal de trajectoires de personnages dans la série, et que ça, je pense, enfin, je comprends pourquoi ça a pu leur parler, tu vois. Parce que voilà, c'est un sujet très 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 grave, sérieux. Ils ont dû se dire, viens, on s'y frotte, tu vois, ça peut être un défi. Alors après, j'ai cru comprendre quand même que les scénaristes de base s'étaient sentis lésés avec un grand B, on va dire. Donc en gros, ils ont, qu'ils vont pas participer à la saison 2, qu'ils ont expliqué que même si c'était pas du tout la faute de Toledano et Nakash, que c'était plus la prod, mais en gros, c'était super mal passé en interne. Donc je sais pas à quoi ça aurait pu ressembler sans ce truc-là, honnêtement. Maintenant, en tout cas, le résultat fini que moi j'ai vu, c'est j'ai un énorme problème. Je peux pas le comparer aux autres versions que je n'ai pas vues. Par contre, j'ai quand même déjà vu une série, voire plusieurs séries où t'as des persos qui vont voir un psy, et c'est déjà plus intéressant. C'est-à-dire que moi, j'en ai un peu rien à foutre d'aller de voir les péripéties d'un couple qui se sépare, qui est joué par Pio Marmaille et Clémence Poésie. Dire à un moment, j'ai déjà vu Tony Soprano, vraiment, je m'en bats les couilles de voir ça.
Ouais. Le couple, en plus, c'est surtout les patients, il y en a 4-7 différents, c'est le moins intéressant, quoi.
Alors, en plus, oui, parce que c'est vraiment l'archétype du couple qui est dysfonctionnel. Mais même les autres, tu vois, entre la chirurgienne qui a donc vécu du côté soignant, les blessés, les survivants du Bataclan, le mec de la BRI qui lui a mené l'assaut et tout, tu dis ouais, ok, c'est, ça aurait pu être plus intéressant que ça. Après, quand ils font se croiser les personnages, je trouve ça très artificiel aussi. Et le perso, du psy m'emmerde aussi.
Il existait déjà dans l'original. Hein.
Ouais, mais c'est pour ça que je te dis. Moi, je vois juste ce que j'ai vu, mais si ça se trouve, ils sont pas responsables de tout, ni eux, ni les scénaristes. Mais après, ouais, enfin, je sais pas. Le perso du psy m'emmerde aussi. Hein. Le perso du psy, je trouve pas intéressant, hein, vraiment.
Ah, bah, moi, je l'aime bien, justement, parce que déjà, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Donc...
Ouh, il y a un transfert parmi nous, là.
Ah, ben, Frédéric Pierrot, très, très fort, quoi. Mais au-delà de ça, en fait, finalement, je suis pas étonnée qu'ils prennent en charge une série comme ça. C'est-à-dire que, oui, c'est assez éloigné. Parce que, pour le coup, l'aspect comédie, là, vraiment, il y a l'aspect plus sociétal qui prend le dessus. L'aspect comédie est quand même très, très ultra limité dans ce cadre-là. Et puis ça revient à ce que tu disais au début aussi, Yérim, hein, sur le côté théâtral de la chose. Pour le coup, il n'y a pas plus théâtral que deux personnes dans une pièce qui discutent, quoi. En même temps, je ne suis pas étonnée qu'ils y aillent, parce que oui, le prétexte, c'est les attentats du Bataclan, mais on voit bien dans la série que ce n'est pas le sujet, en réalité. Le sujet, très vite, ça dérive vers autre chose. Ça dérive vers justement les problématiques de chacun, leurs problématiques personnelles plus quotidiennes, et l'un n'est que le point de départ en réalité.
Ce qui est le principe, si tu me permets, Périne, d'ailleurs, de la psychanalyse, c'est qu'au bout d'un moment, tu vas pour des problèmes concrets, et au bout d'un moment,
c'est là où je veux dire que ça rejoint ce qu'ils font.
De ton inconscient, de papa et de maman. Quoi.
Mais c'est pour ça que je te dis, ça rejoint ce qu'ils font, en fait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ce qui les intéresse, c'est encore une fois des problématiques plus humaine et sociétale que un événement précis, ou enfin c'est plus les relations humaines qui les intéressent, en fait, que en réalité le Bataclan ou quand nos jours heureux, ce qui les intéresse, c'est pas tant les colonies de vacances vraiment, c'est comment ça fonctionne, quoi, entre les gens. Donc on voit bien que je vois l'intérêt qu'ils ont à aller là-dedans. Après, voilà, moi, j'ai pas tout regardé, hein, donc voilà, pour l'instant, j'ai pas
fini. Il t'en reste... Eh, écoute, il paraît qu'il y a un confinement. Ils ont le temps de filmer la saison 2, là, je pense, le temps que le confinement passe. On aura fait le tour un peu de leur filmo. Je suis curieux de voir... En tout cas, je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire après, parce que c'est... je pense qu'après, hors norme, après Le Sens de la Fête, enfin, il faut... Comment on se réinvente en tant que duo? Est-ce qu'un jour ils vont splitter? Est-ce que ça va être nos Daryl and Oates? Est-ce que ça sera notre Wham français? Je ne sais pas. Je veux juste vous demander quel est votre préféré. Alors, Perrine, si j'ai bien compris, toi.
Je crois que j'ai demandé de choisir entre Toledano et Nakash.
Non. toi, donc, c'est Le Sens de la Fête, alors.
Non,
il faut en choisir un.
Bah, moi, mon préf, c'est Nos Jours Heureux. Vraiment, Nos Jours Heureux, c'est un film que je peux revoir sans fin, ça me fait toujours mourir de rire. Les répliques comme si c'est pour dire si c'est pour dire des conneries pareilles, tu ferais mieux de fermer ta gueule, Camille, c'est un chef-d'œuvre. Donc, voilà, moi, rien que pour toutes ces répliques, pour tous ces personnages, et parce que j'ai aussi fait de la colo, je trouve que c'est vraiment mon préféré.
Et toi, Yérim, si j'ai bien compris, c'est En Thérapie, épisode 2. C'est bien ça.
Je te dirais bien Ces Jours Heureux, parce qu'il y avait... Le truc, c'est que y a vraiment une réplique... En fait, il y a des répliques et une fin beaucoup plus cruelle dans Ces Jours Heureux. C'est-à-dire que l'équivalent de Jean-Paul Rouve, qui est Laurent Deutsch, je crois qu'il prend tout le truc, il essaie de serrer...
Il
se retrouve tout seul. Et t'as quand même Omar qui vient le voir, qui fait, oh, tu sais, comme on dit, une de perdue... c'est une de perdue, et après il commence à lui exploser de rire à la gueule, et t'as Fred qui arrive et qui lui dit c'est faut relativiser, hein. C'est vrai que t'es pas très beau et c'est vrai que t'es pas très drôle non plus, et puis il se casse, et c'est juste complètement gratuit. Après tu sens qu'il peut potentiellement finir avec la mère d'une gamine. Mais voilà, je sais pas.
Il n'y a pas son père qui vient le chercher à la fin.
C'est son père qui vient le chercher, donc c'est extrêmement gênant.
Les gamins.
Oui, c'est ça. Donc voilà, t'as bien tout un truc très cruel autour de ce personnage. Et en plus, après, il se trouve que Laurent Deutsch n'est pas quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de sympathie. Donc en plus, il y a un côté méta que j'aime bien. Donc voilà, je te dirais ces jours heureux. Mais sinon, en vrai, je suis comme Perrine, hein, ce serait nos jours heureux dans leur film au long métrage.
Moi, j'ai pas les jours heureux comme vous dans mon cœur, mais je vais juste résumer deux scènes, enfin plutôt deux passages de leur filmo comme préféré. D'abord, à la fin en thérapie, il y a un comédien qui apparaît qui s'appelle Jamel Barek et qui est décédé cette année et qui est absolument fantastique dans thérapie. Donc si vous tenez jusqu'au bout, si vous tenez jusque dans les derniers épisodes de en thérapie, ça vaut le coup. Il y a un épisode où Jamel Barek est très très mis en avant. Et moi, pour moi, mon film, bah, ça reste, désolé Perrine, Le Sens de la Fête, et surtout un passage quand Benjamin Laverne est sur son ballon et qui commence à s'envoler vers le lointain, vers le noir. Il y a une espèce de fondu au noir, et quand il disparaît, je suis mort de rire. Je vois et la gueule d'Hélène Vincent et de tous les autres qui sont en bas et qui regardent Benjamin Laverne qui s'envole, ça me fait pisser de rire. Et genre, il y a ce visage qui dit est-ce que c'est prévu ou pas, et honnêtement, rien que pour cette scène, je remercie pour toute leur filmo, mais vraiment là, c'est vraiment ça rachète tout, quoi. C'est la scène que c'est leur meilleure scène de toute leur vie, je pense.
Bah, de toute façon, Benjamin
désolé d'avoir été si
Benjamin Laverne, ouais. Tu trouves dans ce film, il est vraiment parfait, c'est-à-dire c'est vraiment le connard absolu.
Extraordinaire.
Et ouais, limite tu veux un spin-off sur lui pour savoir si dans son mariage, sa vie de tous les jours, est-ce
moi,
que
moi j'aurais voulu qu'il fasse moi j'aurais voulu une scène post-générique où il fait son discours en entier.
Oh putain,
vraiment, ouais. T'as tout le discours, j'en aurais rêvé, quoi.
Et quand le mec il fait mais c'est qui ce mec, et lui il fait, mais c'est moi. Putain, ça me fait, oh là là, il est extra. En fait, j'aime bien quand les gens jouent des connards, en fait, dans les comédies, et je crois que lui il le fait vraiment très très
franchement, ouais.
En fait, voilà, je veux le voir quand je veux que eux le dirigent en connard pendant, oui, voilà, un spin-off entier sur sa vie, qu'est-ce qui arrive après.
Ça, moi j'espère ce spin-off comme j'espérais un spin-off sur Les Grossman de Tonnerre sous les Tropiques. C'est vraiment, il y a une rumeur complètement folle qui disait, ouais, le perso a tellement marché que Tom Cruise va en faire un film et tout. Bah, évidemment, c'était complètement faux, mais ouais, c'est ce genre de petit mec qui est insupportable vraiment de son côté.
Et moi, je suis pour Release the Benjamin Laverne Cut, moi, c'est clair. bah, merci d'avoir participé à cet épisode. Bah, pour nous retrouver, c'est We Love MDR sur Apple Podcasts et toutes les applis dédiées. Merci de vous abonner, de laisser des commentaires, d'en parler autour de vous. La semaine prochaine, on parle d'un vrai film qui sort, c'est vrai, je vous laisse deviner ce que c'est, mais oui, il y aura un vrai film, une nouveauté. Ça fait un bout de temps, je suis presque ému, en fait je suis prêt à voir n'importe quelle comédie. J'espère que ça sera bien, on croise les doigts, on vous embrasse très fort et on vous dit à très 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 bientôt. Ciao.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
it. Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.